Bonjour et bienvenue à la sixième émission de Musiciens classiques en Occitanie. J'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Aboulker, compositrice, ce jour. Je vais commencer avec une phrase qui va vous ouvrir une porte vers son univers. J'aime le théâtre, le verbe, et j'aime aussi le bruit du crayon sur mon papier à musique, le bruissement de la gomme, les petits points noirs qui se transforment en rythme et en son. Alors, avec plaisir et obstination, et contre toute logique, je compose des mélodies et des opéras. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Tu es née à Boulogne-Billancourt en 1938. Peu après ta naissance, tu as grandi en Algérie, donnant un concert à Alger à l'âge de 6 ans. Tu peux nous parler un peu de ton père, tout d'abord, Marcel Aboulker.
Bien sûr, je parle toujours avec émotion de mon père, qui était un être particulièrement intelligent et drôle et brillant, et que malheureusement j'ai perdu à 14 ans. Un parcours extraordinaire, un jeune pied noir qui vient faire ses études à Paris, entre à Polytechnique, École des Mines, qui après se tourne vers la radio, puis le cinéma, et après la guerre fait un film, deux films drôles, les premiers films d'après-guerre, Les Pieds Nickelés, Les Aventures des Pieds Nickelés. Et mon père m'a donné le goût de la littérature, de la poésie, de la peinture, des beaux objets, de la nature. Mon père, je l'ai perdu, j'avais 14 ans, mais m'a beaucoup, beaucoup influencé.
Dans ta jeunesse, tu as grandi en Algérie, et ton père, il a aidé au débarquement américain en novembre 1942. Et puis ensuite, il a fait un film qui s'appelle Alger et ses complots, paru en 1945, où il relate ses expériences.
C'est un livre.
C'est un livre, d'accord.
C'est un livre, en effet. Et mon père était d'une telle discrétion que, comme beaucoup de personnes qui avaient traversé des épreuves ou des grands événements, il en parlait très très peu. Ce qui fait que je n'ai connu en fait ce passé que à travers son livre.
Oui, donc dans ta jeunesse, tu as même joué dans un concert lorsque tu avais 6 ans.
Pour moi, si vous voulez, 6 ans c'est tout petit, c'est très jeune, et donc je n'ai aucun souvenir de ça. Mais par contre, je sais que le piano était dans la maison à Alger, et que toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, quand je vois un piano, je vois un ami, et c'est le premier piano que j'ai eu, bien entendu.
En parlant de piano et de composition, ton grand-père, Henri Février, élève du Conservatoire de Paris, qui a étudié avec Massenet et Fauré, compositeur connu pour ses mélodies pour piano et musique de chambre. Et ensuite, ton oncle, Jacques Février, fils d'Henri Février, ami d'enfance de Francis Poulenc, qui a créé en 1932 le concerto pour deux pianos, dont il est dédicataire avec le compositeur. Et en même temps, il a joué souvent le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, qu'il connaissait très bien aussi. Alors, paradoxalement, tu dis que, puisque bon, tu étais moins proche du côté maternel que du côté paternel.
Oui, il est évident qu'avoir un grand-père comme Henri Février, qui en fait est plus célèbre par ses opéras que par ses mélodies ou sa musique de chambre, le grand opéra de grand-père qui a été joué vraiment dans le monde entier dans les années 1905, c'est Mona Vanna, dont le livret était de Maeterlinck ayant fait le livret de Péléas et de Bélisande. Oui. Donc, mon grand-père était vraiment, dès 30 ans, dès 35 ans, un compositeur très célèbre. Pour ce qui me concerne, je l'ai connu, il était très âgé, et j'étais petite fille, et je n'ai malheureusement pas eu de contact. Je pense qu'il aurait été heureux d'avoir une petite fille musicienne. Quant à mon oncle Jacques Février, grand pianiste, homme de culture, entouré, comme vous l'avez dit, de personnalités, la petite fille que j'étais, la pianiste modeste, bonne, mais pas très, très, très brillante, que j'étais, ne l'intéressait pas. Donc, j'ai un peu honte à dire que, en effet, ce qui m'a formée intellectuellement et artistiquement, c'est mon père. Côté musical, papa avait l'intelligence d'avoir compris que j'étais musicienne. Et si je suis musicienne, je le dois à la famille Février, bien entendu. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément de souvenirs. Et avec mon oncle Jacques Février, pas de très bons souvenirs. En tant qu'oncle, il était adorable, mais en tant que pianiste, avec moi, petite pianiste modeste et très timide, il représentait quelque chose qui me faisait peur. Mais c'est moi qui étais stupide. Je suis passée un peu à côté de mon oncle Jacques Février, je le regrette.
Puis on parlera de ton mari, Edmond Rosenthal, plus tard, qui, pianiste donc, qui était peut-être plus considéré par ton oncle, puisqu'il débutait déjà une carrière de jeune pianiste.
Mon mari Edmond Rosenfeld, quand je l'ai rencontré au conservatoire, j'étais moi en solfège, lui était déjà en classe de piano, déjà très brillant, et il a eu fait la rencontre assez étonnante un jour où il essayait un piano pour un concert. Julius Katchen était là pour essayer aussi un piano. Edmond, c'était pour une audition et Katchen, c'était pour un concert. Mais mon mari était déjà tellement brillant que Katchen, très gentiment, lui a dit « Mais où jouez-vous? Quand jouez-vous? J'aimerais vous écouter. » Et de là est née une amitié assez extraordinaire, puisque Katchen lui permettait d'assister à ses répétitions. Et mon mari a côtoyé à ce moment-là des grandes personnalités de la musique. Voilà, en effet, mon oncle Jacques Février avait peut-être même de l'admiration pour mon mari, qui étant d'origine polonaise, avait une sorte de fil conducteur avec Chopin. Il avait travaillé avec un élève de Guy Michelangeli, et Michelangeli était un pianiste italien qui avait une technique très très particulière, extrêmement sensible par rapport aux sonorités. Mon mari avait donc hérité de cette façon assez subtile et qu'ont assez peu de pianistes. Et mon oncle Jacques Février avait beaucoup d'admiration pour ce jeune homme, ce jeune pianiste qui démarrait une carrière, qui était mon mari.
J'ai des souvenirs quand je travaillais comme accompagnateur de la chanteuse Geneviève Touraine de sa classe à Paris, qui a été une des chanteuses de Poulenc, qui a donné en plusieurs créations des mélodies de Poulenc. Elle parlait de Julius Katchen, qu'elle a accueilli quand il est arrivé à Paris au début, puisque c'était aussi un compatriote américain, donc c'est des liens intéressants. Ensuite, moi je propose qu'on écoute l'extrait d'un opéra, Douce et Barbe Bleue. C'est pas de la clé, c'est une commande de la maîtrise de Radio France, que les auditeurs vont apprivoiser un peu tout ce monde avec les enfants qu'on va découvrir plus tard dans l'émission.
La clé, la clé, la clé, la clé, sans doute la télé garée.
La clé, la clé, la clé, la clé, elle ne sait pas, elle ne sait pas où elle l'a rangée. La clé,
cachez la vérité, moi je veux savoir, je veux savoir, où est-ce qu'elle est, et cessez de piailler, d'essayer de me tromper, moi je veux savoir, où est-ce qu'elle est.
Alors, si je peux dire un mot, donc c'est pour moi écouter ce petit extrait d'un opéra. C'est pas un opéra en fait, puisque c'était une commande pour la maîtrise de Radio France par. À ce moment-là, la maîtrise était dirigée par un être qui a disparu très tôt, Tony Ramon. Et Tony Ramon m'avait demandé donc d'écrire pour cette phalange extraordinaire qu'est la maîtrise de Radio France, qui a l'habitude d'être confrontée à des compositeurs très contemporains, avec des choses très difficiles et qui sont déjà presque des professionnels, quoique très jeunes. Et il m'avait dit, Isabelle, je sais que vous écrivez de la musique mélodique et tonale, faites-moi quelque chose qui puisse être chanté par d'autres maîtrises bien moins affirmées que la mienne. Et malheureusement, il est mort sans voir que j'avais réussi, et j'en suis fière, c'est vrai, d'avoir répondu vraiment à sa demande de bonne façon. La meilleure étant que hier, à Avignon, s'est donnée à l'Opéra d'Avignon, Douce et Barbe Bleue, avec des enfants qui chantaient très 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 bien, qui avait été merveilleusement formé. Voilà un ouvrage dont je suis heureuse d'avoir pu l'écrire grâce à Tony Ramon.
Oui, on va revenir un peu sur les années d'études au conservatoire. Donc, quand tu étais en classe de solfège spécialisé, tu as rencontré Edmond Rosenfeld, qui à ce moment-là préparait une carrière de pianiste concertiste et qui deviendra ton mari. Ensuite, en 1959, tu interromps tes études dans la classe de Maurice Duruflé pour tout consacrer à votre premier enfant. Et ensuite, parallèlement à des études d'écriture et sur les conseils de Christian Ivaldi, tu es admise dans la classe d'accompagnement d'Henriette Puig-Roger. Je sais que c'est une personne importante pour toi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette période-là?
Bien sûr, Henriette Puig-Roger, deux noms. Elle avait épousé un monsieur Puig espagnol, était une femme admirable et elle avait succédé à Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, grande, grande, grande figure musicale qui a formé des grands compositeurs américains dont Bernstein et a laissé un nom que n'a pas laissé Madame Puig-Roger qui avait des qualités exceptionnelles. Elle était compositrice, elle était organiste, elle était magnifique pianiste et elle formait donc des gens pour être des élèves, pour devenir des accompagnateurs accomplis. J'explique un peu ce qu'était la classe d'accompagnement. Elle prenait donc des pianistes, de très bons pianistes, des moyens pianistes, je me mets dans la catégorie des moyens, mais de ces pianistes qui ont envie de faire autre chose que du piano, c'est-à-dire accompagner, pouvoir transposer, ça veut dire passer d'une tonalité à une autre, pouvoir même faire un accompagnement quand il n'y en a pas. Et ça, c'était des choses que moi, qui étais petite fille, déjà j'étais assez douée pour l'improvisation. Cette classe, pour moi, a été merveilleuse. Je m'y suis sentie très, très, très bien. Madame Puigroger avait compris que j'avais pas un niveau de piano magnifique, mais que j'étais quand même assez bonne pianiste pour pouvoir entrer dans ce milieu d'accompagnateur. Et grâce à mon prix d'accompagnement que j'ai eu assez rapidement, j'ai pu devenir accompagnatrice au conservatoire. Puis après, j'ai passé un concours qui s'appelle le CA pour devenir moi-même professeur d'accompagnement. Voilà. Donc, j'ai, en tant que compositeur qui n'a pas fait d'études musicales, c'est-à-dire je n'ai pas de prix, ce qu'on appelle les prix d'écriture, prix d'harmonie, prix de contrepoint, prix de fugue, tout ça, je n'en ai pas. Par contre, j'ai ce prix d'accompagnement qui m'a fait entrer dans le milieu des chanteurs lyriques et m'a donné une sorte de passion pour la voix et pour le répertoire français. Parce que à cette époque, j'accompagnais donc des classes de grands chanteurs français, Janine Michaud, Xavier Depraz, on chantait tout en français et on privilégiait le répertoire français. Et je suis donc l'enfant spirituel de Debussy, Ravel, Poulenc, Chabrier, Massenet et même un compositeur comme Ambroise Thomas, je dis toujours en souriant, parce qu'on disait il y a la bonne musique, il y a la mauvaise musique et il y a la musique d'Ambroise Thomas. C'est Saint-Saëns qui disait ça. Vous voyez, c'était un peu méprisant, mais un compositeur qui a écrit des choses qui se donnent encore.
Dans cette période-là, tu as travaillé l'orchestration pendant 2 ans, donc avec Pierre Wismer à la Scola Cantorum. Tu as composé également pour le cinéma et le théâtre. Et ensuite, vie musicale à Amiens, avec ton mari Edmond Rosenthal, qui est devenu chef d'orchestre pour un ensemble. Je sais que c'est une période importante de votre vie, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période et éventuellement de l'oratorio
qui viendra après.
Oui, oui, oui.
Bon, donc Amiens, rien ne nous destinait vraiment à vivre à Amiens, dans le nord, en Picardie. Simplement, mon mari avait demandé audience à Marcel Landowski, qui à l'époque était le directeur de la musique en France, et lui avait proposé un projet intéressant d'un ensemble qu'on appelait on appelle à géométrie variable. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses différentes avec des musiciens et surtout de la musique de chambre. Il y avait quatuor à cordes, quatuor à vent, piano, percussion et guitare. Vous voyez, avec cet ensemble-là, on fait toute la musique de chambre. Et mon mari a passé 10 ans à Amiens. Cet ensemble s'appelait Pupitre 14. Pendant ce temps-là, moi, j'avais déjà mes 2 garçons. J'avais une vie familiale bien remplie et j'étais souvent sollicité au conservatoire d'Amiens pour accompagner. En même temps, j'avais un poste d'assistante au conservatoire. Nous avions une vie musicale assez intense et une vie tout court pour moi, avec beaucoup de charges, mais ça me convenait parfaitement. Je ne sais pas si c'est le cas de mon mari, mais moi, j'ai infiniment aimé cette région de Picardie et énormément apprécié la gentillesse des gens du Nord. Et d'ailleurs, je dois dire, c'est anecdote, mon fils est né, habite Amiens, a fondé sa famille à Amiens, enseigne à Amiens. Il se trouve que les promenades dominicales nous emmenaient toujours vers les beaux paysages de la Picardie, mais toujours vers des cimetières à perte de vue, car Amiens, la Somme ont été le théâtre évidemment de batailles terribles et emportent les stigmates. Hein. C'est une région vraiment, on ne peut pas ignorer que, je crois qu'en promenade, nous avions même encore trouvé des morceaux d'obus, enfin. Toujours est-il que j'avais envie d'écrire autour de la guerre de 14 et que le grand chef d'orchestre Louis Langray, qui avait en fait repris l'ensemble de mon mari pour en faire l'orchestre de Picardie, le savait. Et quand nous avons même quitté Amiens, il s'en est souvenu pour me commander un oratorio autour de la guerre de 14. Voilà. Et je travaillais avec une jeune femme qui s'appelait Ariel Augry, qui avait été licenciée en lettres et qui a fait un magnifique travail en cherchant des lettres, en cherchant des textes de grands auteurs, Apollinaire, Blaise Cendrars, Junger, Cocteau, des textes très forts. Et j'en ai fait donc un ouvrage avec Ariel qui s'appelle « L'homme qui titubait dans la guerre » et qui essaie quand même, comme il y avait des cœurs d'enfants, de ne pas être trop lourd, qui prend parfois du second degré, ce qu'on quelquefois on m'a reproché. Mais il fallait quand même, puisqu'il y avait des cœurs d'enfants, ça faisait partie du cahier des charges, on ne pouvait pas être tout le temps dans le noir, le sinistre. Et c'est un ouvrage qui a été vraiment beaucoup donné, surtout les années de commémoration. En 2018, il a été donné plus de 20 fois. C'est très, très rare qu'une création et qu'un compositeur contemporain puisse avoir la joie d'avoir un ouvrage pris, repris.
Oui, et puis c'est grâce à cette œuvre qu'on s'est connus. Enfin, moi, je t'ai connu musicalement parce que j'ai assisté en 2018 à la centenaire à Toulouse. Cet oratorio, d'ailleurs, il y avait un chœur d'enfants immense. Hein, et puis,
ça dépend des capacités, même de la formation qui le monte.
Oui, enfin, c'était là à Logrin, c'était mm-hmm. plein, c'était vraiment très impressionnant. Donc, cet oratorio rend compte de la réalité de l'époque à travers les souffrances et les réflexions d'un soldat imaginaire lors de l'un des derniers combats au front, le 11 novembre 1918, le jour même de la déclaration de l'armistice. Je propose maintenant qu'on écoute un extrait de cet oratorio 1918, L'homme qui titubit dans la guerre.
Sans un puissant coup de barre, je vois à l'horizon un siècle de haine, de nouvelles guerres de revanche et de destruction de la civilisation européenne. J'ajoute que pour celle-ci, je n'aurai pas un regret si les peuples vainqueurs se montrent aussi incapables de diriger leur destinée. Les alliés se croiront victorieux, mais ils seront vaincus, conquis par la défaite. Puissent-ils, au milieu des triomphes enivrants mais trompeurs, du présent reprendre conscience de leurs écrasantes responsabilités envers l'avenir. Qu'ils songent que chacune de leurs erreurs ou de leurs abdications sera payée par leurs enfants et leurs petits-enfants.
Suite à cette période à Amiens, de 1983 à 2003, tu enseignes la formation musicale aux élèves chanteurs du conservatoire, tout en explorant une carrière de compositrice. Et je voudrais lire un extrait de ton site internet, je pense qu'il donne aux auditeurs une bonne idée de ton monde. Si écrire pour des jeunes voix nécessite de s'adapter à leur tessiture et à leurs possibilités techniques, je ne renonce pas au raffinement de l'écriture, notamment en ce qui concerne l'harmonie. Je revendique par ailleurs de Bartok dans la précision de ses indications d'articulation, d'intensité, d'expression. De même, les sources littéraires sont de haute volée, dans la forme comme sur le fond. Pour moi, le verbe est indispensable à ces démarches créatives. Pour s'être essayé à la musique pure, je prends conscience très tôt que le texte, et notamment son aspect narratif, était le déclencheur de mon inspiration. Selon un processus inverse, j'ai observé que la musique permettait aux enfants d'accéder plus facilement aux univers de Molière, Perrault, La Fontaine ou Roald Dahl. Est-ce que tu peux nous parler de ce contact avec les enfants, de ce monde merveilleux, de toute cette musique que tu as créée? J'annoncerai ton site internet tout à l'heure, il y a un catalogue énorme de tellement de choses. Il y a tout ce monde avec les enfants.
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie vraiment des choses très très importantes de mon travail de compositeur. Et je pense que là, je fais en effet un boulot très particulier parce que j'ai un âge fort important Et je suis vraiment au dernier quart de ma vie, je pense. Je suis contente d'avoir pu apporter aux enfants quelque chose que d'autres compositeurs n'ont pas fait, sans doute parce que, comme je le disais plus tôt, mon goût pour les textes, mon goût pour la poésie, mon goût pour la beauté de la langue française, cette langue dont on dit qu'elle est difficile à chanter, mais quand elle est bien prosodiée, voire Debussy, Ravel, Poulenc, elle est très agréable à chanter. Donc, ces trois soucis que j'ai, en plus cet amour de l'harmonie, très tonal, je suis en effet très tonal, puisque mon héritage est de la musique française du 19e siècle, mais j'y apporte quand même quelque chose qui est le fait que, comme je suis quand même quelqu'un qui aime bien rire et qui aime le monde de l'enfance, et le monde de l'enfance serait quand même s'ils ont souvent le goût, quand je fais des contes, par exemple, avec cinq chansons, il y en a deux, une triste, ils choisissent souvent la triste en disant c'est celle-là que je préfère. Donc j'ai en effet beaucoup, beaucoup écrit pour les enfants, des chansons, et depuis quelques années, j'ai même plus travaillé encore pour les maternelles et les classes jusqu'à 7 ans, si vous voulez. À 7 ans, ça bascule un peu, mais jusqu'à 7 ans, vraiment, il y a une sorte de sensibilité très fine que l'école et les autres érodent un peu, une spontanéité et des choses très émouvantes et surtout une perception, une finesse que malheureusement on perd l'enfance. Oui, j'ai remarqué cela. On ne sait pas pour rien qu'on dit l'âge de raison. Donc j'ai travaillé l'âge de raison. Ça veut dire qu'avant, les moins, et il faut être moins raisonnable dans la vie pour la goûter entièrement. Les enfants, eux, ont ce privilège. Et j'ai gardé une sorte de fil, un fil d'Ariane entre les enfants et moi. Donc j'écris, oui, beaucoup pour les enfants. Et le dernier ouvrage que j'ai pu faire, Mila et l'arbre bateau, je lui ai donné le prénom de ma petite fille Mila. C'est un conte qui parle de la mort d'un grand-père. On parle rarement de la mort. J'ai fait moi-même le texte, j'ai fait très attention aux mots que j'employais. Et cet ouvrage, Mila et l'arbre bateau, est très apprécié par les instituteurs, par les enseignants, par les parents et par les enfants.
Qui a eu le prix de l'enseignement musical, et que c'est une histoire tout en tendresse et en poésie, et 7 chansons faciles à chanter. Je propose maintenant qu'on écoute un extrait, Le bateau, de Mila et l'arbre.
Donc c'est la chanson Le nom des arbres, et c'est tiré de Mila et l'arbre bateau. Et c'est un ouvrage qui est très souvent donné dans les écoles, et donc qui touche à un thème un petit peu lourd, très lourd, la mort d'un grand-père, mais avec l'espoir toujours que la vie reprend son cours.
Mila connaissait, grâce à son grand-père, le nom de tous les arbres. Et elle avait inventé une chanson qu'ils chantaient tous les deux en revenant de leur promenade.
C'était un extrait qui a été fait en fait pour figurer dans le CD, livre, disque qui vient de sortir chez Gallimard.
Avant de se rencontrer, Elisabeth Saint-Paul, qui est présidente de Musique entre Pierres, une des deux associations qui gère le Festival international de musique en Occitanie, dont je suis le directeur artistique, en 2018, elle m'avait dit, il y a un pianiste, Edmond Rosenfeld, qui est un membre du Lions Club dans la région, et c'était un pianiste maintenant. Sa passion de l'art a pris le dessus sur la musique et donc il a ouvert des galeries. Il m'a dit, peut-être on peut le convaincre de jouer avec toi dans un concert, ce qu'il a accepté. On a été vous voir à Luchon, tous les deux, et je ne savais pas que Edmond était ton mari à l'époque. Et longtemps, on a pu jouer à la quatrième saison de notre festival. On a joué la suite Ma mère loi, piano quatre mains, le boléro, piano quatre mains, et vous avez joué tous les deux la fantaisie de Schubert. Donc, c'était vraiment une belle rencontre, ça fait 4 ans qu'on se connaît maintenant. Ensuite, en 2019, tu as accepté de composer une mélodie pour le festival sur un texte plein d'espièglerie sur l'histoire du corbeau et le renard, donné dans la cour d'honneur de l'hôtel d'Assezat à Toulouse. J'ai donné en tant que pianiste avec la soprano Sylvia Cazeneuve. Maintenant, tu te consacres pleinement à la musique, tu sillonnes aussi la France et l'étranger pour assister à des productions ça doit être absolument passionnant de cueillir des fruits de toutes ces années de travail et d'assister avec des belles productions de gens talentueux de ta musique.
C'est vrai, mais le plaisir, pour moi, le vrai plaisir reste encore d'être à ma table et de composer à la demande, toujours à la demande, et d'essayer de répondre à la demande un peu comme un couturier va devoir faire une robe qui elle va bien aller à une jeune femme forte, mince, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aime les commandes, j'aime pouvoir faire plaisir. Et oui, bien sûr, j'étais heureuse, je suis toujours heureuse d'assister à un opéra que j'ai écrit, mais très, très sincèrement, ce que j'aime, c'est être au piano tranquille dans ma petite chambre et écrire ma musique, comme je l'ai dit, avec un crayon et une gomme, et gommer beaucoup, car je suis très, très sévère envers moi-même.
D'ailleurs, c'est un très bel endroit où elle a une petite cabane que son mari lui a fait construire avec une vue sur les montagnes où elle compose. C'est un lieu absolument magique que j'ai eu le plaisir de visiter à plusieurs reprises. En plus, en 2018, tu as été nommée chevalière de l'Ordre des Arts et Lettres par le ministre de la Culture. Et puis, l'année dernière, tu as reçu le prix SACEM pour le répertoire jeune public. C'est une sorte de couronnement de toutes ces années à cette belle énergie des enfants et l'ouverture d'esprit.
Ça a été pour moi une belle surprise que ce prix SACEM, répertoire jeune public, c'est la première année que la SACEM se penche justement sur ce répertoire qui devient très important. J'ai beaucoup, beaucoup de collègues compositeurs qui composent pour les enfants. Il y a vraiment maintenant le répertoire est beaucoup plus conséquent qu'il ne pouvait être quand moi j'ai commencé. Oui, c'est une belle année. Évidemment, le confinement et tous les gros problèmes de la crise sanitaire a pu apporter a fait qu'il y avait énormément de choses annulées. Et puis que là, ça a repris, et ça a repris en même temps, oui, pour moi, pas mal de choses qui ont été données récemment.
Y compris une mélodie qu'on t'a commandée pour un concours.
Ah oui, concours très prestigieux, le concours de Lily et Nadia Boulanger, et qui a lieu tous les deux ans, qui est un concours de duo chant piano. On m'a fait l'honneur de me demander la mélodie, et j'ai choisi un texte très émouvant. Nadia Boulanger était une grande compositrice et sa petite sœur Lily Boulanger, oui. Elle était extrêmement douée. Peu de femmes ont eu du génie en musique, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Et je pense que Lily Boulanger, qui est morte à 23 ans, laisse des œuvres très très importantes qui laissaient présager une carrière et un catalogue absolument fabuleux. Et donc j'ai écrit ma musique sur un texte très tendre de Nadia à sa sœur, qui était toujours en très mauvaise santé, très malade, et c'est une lettre maternelle. J'ai écrit ça avec beaucoup de plaisir et d'émotion pour rendre hommage à ces deux femmes exceptionnelles.
Merci beaucoup, chère Isabelle, d'être venue aujourd'hui partager ton monde musical avec nous. Et si les auditeurs souhaitent aller plus loin dans l'écoute de sa musique, son site internet, c'est Isabelle Aboulker, aboulker.com, où vous avez beaucoup de vidéos, d'extraits musicaux. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et ensuite, j'invite également des personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles du festival de me contacter sur mon adresse mail edmundb, c'est edmundb, @mail.com. Et le site internet du festival où vous pouvez découvrir la prochaine saison 2022, c'est fimo-festival.com. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.
Ma petite Lily, mon cher petit, mon petit lapin, mon cher trésor, combien je te chéris.
Possible love.